SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
In Sweden, we believe in peace of mind. Whether it's finding the right work-life balance or deciding on your new car. That's why every Volvo comes with a guarantee of the safety, quality and performance you'd expect. Across all new, pre-loved and demo models. There's a Volvo for everyone. So even more people can have peace of mind. Visit your local authorized Volvo retailer to feel it for yourself. Volvo.
Vous êtes avec SBS French.
SBS en français. Partagez nos rubriques sur Facebook.
Eh bien, aujourd'hui, dans le programme en français, on va parler de littérature française francophone dans le Pacifique avec Titawa Porcher. Bonjour, docteur Titawa Porcher. C'est bien
Bonjour.
Ça?
Oui, c'est bien ça.
Alors, vous avez fait le voyage jusqu'en Australie, jusqu'à nous, pas que pour nous parler, hein, il s'est passé beaucoup de choses et il va se passer beaucoup de choses pendant votre séjour ici en Australie. Tout d'abord, la littérature francophone dans le Pacifique, ultra important, mais la question, pourquoi c'est tellement important pour la survie de la langue dans la région?
Alors, la survie de la langue dans la région, oui, et puis le fait de connaître, en fait, des territoires dont on ne sait pas grand-chose, finalement. Et moi, je suis là aussi pour ça, pour faire connaître ces territoires, pour faire savoir qu'il y a une littérature dans ces territoires, parce qu'elle porte, en fait, l'identité des entités géopolitiques qui écrivent. Et donc, comme ce sont des territoires qui sont de tradition orale, c'est aussi une mémoire, en fait, de ces territoires qui s'écrit en français. Et je trouve que c'est beau, justement, qu'il y ait cette rencontre entre la langue française et ses identités autochtones.
Alors, le Pacifique, c'est énorme. On le sait tous, on a tous fait nos cours de géographie pacifique.
Dans ce Pacifique qui est majoritairement anglophone, comme vous le savez, il y a quatre territoires, quatre entités géopolitiques qui font du français leur langue officielle ou l'une de leurs langues officielles. Alors, vous connaissez bien la Nouvelle-Calédonie ou la Kanaky, puisque vous êtes assez proche de ce territoire. Donc, il y a la Polynésie française. Il y a aussi le Vanuatu, qui est un petit territoire où il y a 105 langues vernaculaires. Donc, ça fait l'une des densités linguistiques les plus importantes au monde par rapport au nombre d'habitants.
Et qui a un héritage qui était à la fois anglophone et francophone, beaucoup quand même.
Absolument. C'était un condominium, c'est-à-dire qu'il y avait, il y avait à la fois l'Empire britannique et la France qui opéraient conjointement leur gouvernance. Et donc, il y avait deux administrations parallèles et donc aussi deux langues officielles. Donc, on a comme langue officielle au Vanuatu, le français, l'anglais et le bichlamar, qui est finalement la langue qui va fédérer tout le monde, puisque sur ce tout petit territoire, finalement, d'une vallée à une autre, on ne se comprend pas. Donc c'est le bichlamar et c'est un des rares territoires à avoir un créole comme langue officielle également. Donc on a un Pacifique qui est absolument passionnant.
Oui, tout à fait. Et c'est plus on s'approche et plus on s'intéresse à la question, similitude.
On va voir, notamment dans l'imaginaire, parce que moi je travaille beaucoup, mon champ de recherche c'est le corps, le corps océanien. Et donc dans l'imaginaire du corps, il va bien sûr y avoir des similitudes, il y a une façon de s'envisager, d'envisager son être au monde quand on est océanien. Le lien par exemple avec le cosmos se fait sous forme de continuum en fait, il n'y a pas de limitation comme il peut y en avoir dans une vision européenne post-Descartes, c'est-à-dire qu'en fait l'homme et le monde sont tissés dans la même trame vivante, et ça je pense que c'est quelque chose qu'on va retrouver dans tout le Pacifique.
Cette notion...
Ah oui, complètement, c'est la représentation du corps. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Donc dans le mythe originel, le mythe cosmogonique qui construit le monde selon les Polynésiens, Taharoa, qui est le dieu créateur, en fait tourne dans son œuf pendant vraiment un temps infini jusqu'à ce qu'il casse sa coquille et qu'il forme le monde en fait à partir de son corps. Donc il va se démanteler, il va prendre sa colonne vertébrale pour faire les montagnes, il va prendre ses ongles pour faire les carapaces des tortues par exemple. Et donc ce mythe, qu'est-ce qu'il nous raconte? Il nous raconte qu'à l'origine, il n'y a pas de distinction entre le corps et la trame du monde autour de nous. Eh bien, on va le retrouver alors dans, par exemple, L'île des rêves écrasés, qui est le premier roman tahitien écrit en français, 1992, écrit par Chantal Spitz. On voit les personnages, par exemple, qui font un rituel qui se fait toujours à Tahiti. Je ne sais pas si ça se fait ici encore dans les tribus aborigènes, mais on enterre le placenta de l'enfant qui vient de naître. Mmh. On l'enterre et on plante un arbre là où l'a enterré pour marquer justement ce continuum. C'est-à-dire que finalement, ce placenta qui a nourri l'enfant, il va continuer de le nourrir plus tard quand il sera adulte. Et dans l'île des rêves écrasés, par exemple, on a ce rituel qui est représenté. Les personnages enterrent le placenta. Et le texte glose en parlant d'un immortel enracinement du ventre. C'est-à-dire qu'on est vraiment lié à la terre. On est lié à la terre par les entrailles. Les entrailles étant dans l'imaginaire océanien le seuil des émotions. C'est pas le cœur, hein, c'est vraiment les entrailles.
Et donc du coup, après la mort, il y a un retour, quand on parle du retour à la terre, c'est aussi un retour à ce placenta originel.
Complètement. Il n'y a pas de lien. De toute façon, il n'y a pas de la mort est juste un autre état. Je parle également il y a un arbre qui est assez symptomatique, qui est le banyan, qui apparaît dans toutes les légendes et dans tous les contes et tous les mythes. Le banyan, je ne sais pas si vous en avez beaucoup en Australie.
Non.
Donc c'est un arbre en fait qui a cette particularité d'avoir des branches qui poussent, qui touchent le sol et qui font en fait des racines et qui vont repousser. Donc c'est une espèce de palingénésie, de mouvement continuel de renaissance. Et je pense que James Cameron, qui a fait Avatar, en fait, qui s'est beaucoup intéressé d'ailleurs au Pacifique, a dû se nourrir de cet imaginaire quand il a imaginé cet arbre dans lequel finalement les personnes peuvent être en contact avec les ancêtres. Parce que dans l'imaginaire océanien, c'est vraiment ça. Dans un mythe Kanak, par exemple, Te Akanake, qui est le premier homme, va s'enfermer dans le banyan pour partir à la rencontre des ancêtres. Et donc, vous voyez, cette consubstantialité, elle est à la fois au moment de la quand on vit, mais également dans ce continuum avec la mort et avec les ancêtres. La dimension, la place des ancêtres est absolument essentielle.
Alors moi, j'ai une question qui était d'ailleurs dirigée par ma fille, de spiritualité. Est-ce que c'est une chose qui est bien parce que ça ouvre cette spiritualité vers un monde qui connaît peut-être pas cet accès-là? Et je pense par rapport à la France, hein, en France, le Pacifique, c'est un trou noir. On n'en parle pas, on en parle à peine, et quand on en parle, c'est pas forcément en bien. Donc, est-ce que avoir des compagnies comme Disney qui ouvrent et qui mettent un peu un accès, même si ça prend des raccourcis, c'est un bien, c'est un mal? C'est quoi pour vous, à vos yeux d'autrice et de docteur?
Moi j'ai été sous le charme. Moi j'ai
adoré.
C'est
un très beau film, hein,
c'est beau, il faut le dire, c'est beau. Et puis la grand-mère comme ça qui est là. Enfin, je trouve qu'il y avait des choses qui sont justes en plus. La place des ancêtres, la place des aïeux, la place de la grand-mère qui va conduire la petite fille vers ses ancêtres.
Il y a de la profondeur. Hein. Si on connaît un peu l'histoire, il y a énormément de profondeur en fait.
Absolument. Alors moi, j'ai écrit une pièce qui s'appelle Hina, Maui et compagnie, mm-hmm. qui va faire intervenir, alors de façon moderne et un peu burlesque, le personnage de Maui, qui est dans le dessin animé. Et Maui, par exemple, c'est un dieu qui est très important dans l'imaginaire océanien. C'est un dieu constructeur puisque c'est celui qui a ralenti la course du soleil. Puisque le soleil allait beaucoup trop vite, donc Maui ralentit la course du soleil, et il est présent là. Alors bien sûr, il est présenté de façon humoristique, il a une personnalité, on sent bien sûr l'empreinte américaine, hein. Mais moi j'ai eu des yeux d'enfant quand j'ai vu ce dessin animé, et je dois dire que j'étais assez sous le charme.
Eh ben, c'est bon à dire. Allez, on fait une courte pause, on se retrouve dans quelques instants.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
In Sweden, we believe in peace of mind. Whether it's finding the right work-life balance or deciding on your new car. That's why every Volvo comes with a guarantee of the safety, quality and performance you'd expect. Across all new, pre-loved and demo models. There's a Volvo for everyone, so even more people can have peace of mind. Visit your local authorized Volvo retailer to feel it for yourself. Volvo.
SBS Chills, Chillest 100. It's Australia's most relaxing countdown. Voting is open at sbs.com.au/chill, which could win you an SBS Chill merch pack. The Chillest 100, New Year's Day on SBS Chill.
Seconde partie de notre entretien autour de l'institution d'éducation à Melbourne. Je ne veux pas forcément nommer, mais il y a l'université de Melbourne, par exemple. C'est important de rappeler aussi aux profs de français ici qu'il y a une littérature francophone du Pacifique et qu'elle est beaucoup plus proche, peut-être, qu'elle peut l'être pour des élèves, mais aussi pour des profs.
Oui, alors c'est Diane de Saint-Léger qui m'a invitée.
On connaît très bien Diane. Un grand bonjour à Diane ici dans le programme.
Qui est vraiment chouette et qui vient d'ailleurs à Tahiti maintenant régulièrement, qui apporte aussi, enfin, qui fait le lien entre l'Australie et Tahiti. Et l'idée, c'était d'élargir les corpus, c'est-à-dire j'ai rencontré des profs de français qui voulaient, plutôt que de travailler uniquement sur la littérature franco-française, qui a son intérêt, moi je l'enseigne aussi, hein, mais justement d'élargir les corpus à un Pacifique qui est proche, en fait, on est cousins, donc il y a vraiment, j'ai trouvé beaucoup d'intérêt de la part des profs, justement d'entendre parler de cette littérature du Pacifique qui s'exprime en français.
Cet échange, il est primordial parce que les élèves qui apprennent le français, c'est vrai que moi, il y a des élèves comme mes filles à moi qui, elles, sont français. C'est important aussi de leur montrer que la France et le français, c'est pas que la métropole. Ça s'élargit à beaucoup plus. Il y a l'Afrique, mais il y a également donc toutes ces cultures du Pacifique.
Oui, absolument. Donc la France, effectivement, on sait que le français, il est parlé majoritairement en dehors de France. Si on voit le nombre de locuteurs, ils sont plutôt à l'extérieur de la France. Et puis, enfin, même quand on est amoureux de la langue française, comme je le suis moi, c'est aussi vraiment chouette de voir comment elle est retravaillée. C'est une langue qui est déterritorialisée, elle est complètement sortie du territoire français, et voir comment finalement ces autres territoires se la réapproprient, la retravaillent avec tout leur univers culturel, avec leur oralité ancestrale. Par exemple, il y a une poétesse qui s'appelle Flora de Vatine, qui va insuffler justement toute l'oralité traditionnelle à ce français qui va être retravaillé et qui va être complètement différent. Et je trouve que c'est une poésie qui est vraiment hybride et hyper originale à entendre.
Et ce qui est intéressant, c'est aussi peut-être en Calédonie, on le sait, est-ce que ça s'est retranscrit aussi dans la littérature ou dans les écrits? On le ressent aussi, il y a un changement de ce côté-là? Peut-être une émancipation, une prise de courage, entre guillemets.
Alors, c'est non seulement lassant, mais c'est l'origine de cette littérature. D'accord. C'est-à-dire qu'elle est née, elle est toute récente, elle est née dans le dernier tiers du XXe siècle, autour des années 70-80, et elle naît avec ce mouvement de revendication identitaire, avec une charge contestataire qui est forcément assez lourde. L'île des rêves écrasés va nous raconter l'histoire d'une généalogie familiale depuis l'arrivée des navigateurs jusqu'aux essais nucléaires. Et donc c'est une forme de relecture de l'histoire telle qu'elle va être racontée en France, vue par les habitants, et donc voir cette acculturation, l'histoire des essais nucléaires pour lesquels on n'a pas forcément demandé l'avis à la population et qui l'ont vécu
ou pas
comme...
du tout, hein.
Oui, oui.
Disons-le. Hein.
Oui. Donc du coup, bien sûr qu'il y a une charge contestataire, et même certains m'ont fait la réflexion en me disant, mais quand même la littérature, elle est parfois noire, elle est parfois lourde. Il y a aussi toute la dimension sociale qui va être restituée dans cette littérature. L'idée, c'est aussi de sortir de la carte postale. L'idée, c'est aussi de tordre le cou au cliché de la varinée languide et de montrer que la Polynésie, ça n'est pas que ça. Et donc, c'est une forme de reprise de pouvoir aussi sur un discours. C'est-à-dire, on a été écrit par les autres. Il est temps d'écrire nous-mêmes qui on est pour dire justement cette réalité qui n'est pas uniquement faite de plages de sable blanc et de varinée.
Ouais, la Polynésie, c'est beaucoup plus que les Marquises. Il y a beaucoup plus que ça, avec des vrais problèmes qui aussi existent. Quelqu'un que j'ai eu la chance de recevoir d'ailleurs ici dans les studios, c'est Dewe Gorodé. Elle est importante, hein, dans le Pacifique, elle est sûrement importante pour vous également.
Oui, bien sûr. Alors moi, je suis spécialiste de littérature francophone du Pacifique, donc forcément c'est une personnalité qui est extraordinaire. Et alors elle aussi, c'est pareil, elle est partie faire ses études à l'université Paul Valéry. Et donc c'est en France où elle a côtoyé les milieux marxistes, elle a côtoyé les étudiants post-68ards, et où elle a eu une vraie prise de conscience, et elle est revenue dans son pays et elle a commencé à écrire. Donc c'est une forme extraordinaire, et d'un point de vue politique, elle a été très courageuse, elle a fait même un séjour en prison. Et en même temps, au niveau littéraire, elle a été très productive. Pour les femmes, elle a joué un rôle qui est très important. Il n'y avait pas d'idéalisation de la vie en tribu, même si elle dénonçait le système colonial. Elle était aussi consciente des dysfonctionnements et des problèmes que les femmes avaient à vivre quand elles étaient en tribu. C'est une femme assez extraordinaire. Elle a été donc elle est morte en 2022, je crois, et on a fait à Tahiti un colloque littérature et politique en Océanie, où on, dans lequel on rendait hommage donc à son action.
Qui apprennent le français aujourd'hui, qui sont peut-être dans une alliance française, ou qui sont, mais qui voudraient explorer un peu plus. Faut pas avoir peur d'approcher la littérature de la Polynésie, même si tout ce qu'on vient de dire, il y a des sujets assez durs. C'est aussi des sujets qui font énormément réfléchir, qui peuvent aider à la réflexion. Et ça fait aussi partie de l'apprentissage d'une langue.
Oui, complètement. C'est bien de voir aussi un autre, voilà, une langue française dans d'autres états, si je puis dire. Et puis, on peut avoir des textes qui sont simples, qui sont faciles d'accès, d'autres un petit peu plus difficiles. Mais en tout cas, c'est vrai que l'idée, c'est de pas avoir peur et de venir voir, parce qu'il y a des choses qui sont vraiment chouettes. Et puis, je pense que la résonance est pas tout à fait la même quand on est en Australie. On est vraiment pas loin, donc. Donc, oui, venez.
Je pense que, désolé d'interrompre, mais je pense que de plus en plus on s'en rend compte.
Oui.
C'est bête à dire, mais de plus en plus on s'en rend compte que la France et la culture francophone, elle est à 1h30, 2h d'avion, selon où on est en Australie. C'est à côté qu'il y a, je pense que chez les gens, aujourd'hui, il y a une vraie réalisation, ça peut paraître complètement bête, mais que il y a tout un pan d'une culture qui est complètement différente, qui est juste à côté. Pour les Australiens lambda, je serais tenté de dire.
Oui, mais alors moi, j'ai été surprise même lors du colloque d'entendre vraiment beaucoup de profs de français qui étaient intéressés et qui ne demandaient que ça. Et puis il y a aussi des personnes qui agissent en souterrain. Je pense à Diane, effectivement, qui organise des voyages, qui fait donc connaître aux étudiants la vie en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie. Donc je pense que c'est un chantier qui est en train de prendre et qui est en train de prendre de l'ampleur. Donc je suis très heureuse de participer, d'être un élément dans cette grande dynamique qui est magnifique.
En bon français, on dira vous avez du pain sur la planche.
Oui, j'ai du pain sur la planche.
Merci d'être venu.
Merci à vous.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.
In Sweden, we believe in peace of mind. Whether it's finding the right work-life balance or deciding on your new car. That's why every Volvo comes with a guarantee of the safety, quality and performance you'd expect. Across all new, pre-loved and demo models. There's a Volvo for everyone. So even more people can have peace of mind. Visit your local authorized Volvo retailer to feel it for yourself. Volvo.